Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Ce matin, des témoignages forts pour raconter le crime de l'inceste, des enfances défigurées, une mémoire traumatique tatouée dans le corps et l'esprit, une onde de choc qui bouleverse toute une vie et ce silence des victimes imposé par les abuseurs, les violeurs, dans l'écrasante majorité des hommes, le silence érigé par les agresseurs en arme de destruction massive avec de graves dégâts collatéraux. Comment expliquer cette parole bâillonnée? Quelle est la complicité de notre société dans cette conspiration du silence? Comment se reconstruire après un inceste? Selon un récent sondage de l'Ipsos, un Français sur 10 affirme avoir été victime d'inceste. Nos invités ce matin, Grégoire Delacour, Charlotte Pudlowski et Bruno Clavier. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 où vous pouvez témoigner de façon anonyme sans oublier de nous laisser un message, une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulay.
Bonjour.
Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent?
Eh bien, je vais m'aligner dans le sujet et essayer de voir comment, en tant que parent, on peut effectivement prévenir ou accompagner les questions de violence sexuelle.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Je voudrais faire un petit discours. C'est une espèce de discours de vérité. J'ai choisi de l'intituler « Quand père prenait son bain ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains. Pour ça, il nous emmenait, Linda et moi, d'abord dans son bureau. Alors, il verrouillait la porte, il descendait les persiennes, il allumait une lumière pour faire joli, et puis il enlevait sa chemise et son pantalon, et on devait en faire autant. Après, il nous faisait allonger sur la banquette verte, et il nous violait. Il abusait de nous, il avait des rapports sexuels avec ses chers petits.
Christian.
Et j'ai pensé que ça... Ce serait bien que je le partage avec ma famille. Ça s'est produit en hiver, en été, en automne, au printemps, le matin, le soir. Et je me suis dit, il faut qu'il sache ça que mon père, Helg, est quelqu'un de propre. Et nous sommes tous réunis ici ce soir pour fêter les 60 ans d'Helg. Quel vénard! Alors fêtons-les tous ensemble. Papa, merci pour toutes ces belles années et bon anniversaire.
Extrait du film Festen de Thomas Vinterberg en 1998. Bonjour Grégoire Delacour.
Bonjour Ali.
Vous avez été publicitaire, vous êtes romancier. On vous doit l'excellent best-seller adapté au cinéma, La liste de mes envies. Et vous publiez dans un tout autre registre le récit de l'abus sexuel dont vous avez été victime quand vous étiez enfant par votre père. L'enfant réparé chez Grasset, magnifique récit. Alors ça s'est passé dans une maison dans le nord de la France. 9 avenue de Verdun, je vous cite, façade en briques rouges, double porte d'entrée en chêne, des poignées, bâtons de maréchal en cuivre, que votre mère avait à cœur de toujours faire briller, la propreté dissimule, le chagrin, disait-elle.
Oui, c'est le lieu du crime. C'est un lieu terrible, c'est la maison d'enfant, c'est la maison où on doit être heureux, on doit avoir des souvenirs, on a envie de revenir. Et ça n'a pas été mon cas, à peu de choses près. Puisque c'est toujours à peu de choses près, l'horreur est jamais loin du bonheur. Et je suis retourné dans cette maison, après, dans ma tête et physiquement, après 9 livres. Il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour que ces souvenirs reviennent, que cette langue, ce langage, mais cette langue plutôt que furent les mots de chacun de mes livres, me permettent de ressortir cette chose enfouie. Parce que c'est très, très difficile de parler. De mettre des mots sur des choses qu'on ne peut pas formuler quand on est très petit. J'avais 5 ans. Donc ce qu'on peut pas nommer, on l'enfouit, ça vous dévore et on sait pas pourquoi. Et après, à qui peut-on parler? Puisqu'il y a un problème d'avoir une parole qui soit recueillie. Et il y a rien de pire que de donner le poids de son chagrin à quelqu'un d'autre. On n'en veut pas, c'est compliqué. Un lundi matin au bureau, quelqu'un à qui vous demandez « ça va ?» Non, ça va pas. Oh là là, on n'a pas envie. C'est très compliqué, l'autre. Et donc, on a peur de pas être recueilli, de pas être accueilli avec nos chagrins, avec nos souillures. Et alors, on se tait. Et puis, à la honte. Cette honte de nous-mêmes. Est-ce que c'est de notre faute? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi la personne qui nous aimait, qui devait nous aimer le plus, est capable de nous détruire? Et je crois que dans tous mes livres, sans le savoir, depuis le tout premier, c'est ça que j'écrivais. C'est cette réponse que j'essaie de trouver à la question pourquoi on fait du mal, pourquoi ceux qui vous aiment vous broient, vous cadenassent en vous-même et vous laissent massacrer, boiteux, infirme aux autres.
Alors c'est une maison où vous avez été abîmé, une maison où vous avez eu peur et froid. Quel souvenir conservez-vous de l'abus dont vous avez été victime? Vous écrivez « La douceur moite des doigts de l'autre est une anesthésie. J'aurais préféré des griffes. J'aurais pu repousser, me défendre. J'aurais pu choisir de mourir. »
Je me souviens de ça. Je me souviens de cette grande douceur qui est terrifiante. Parce qu'on ne peut pas se défendre. Si on prend un coup, on peut se battre, on peut se protéger, on peut se révolter, on peut dire on m'a battu, je sais que ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais la tendresse, la gentillesse, l'amour, d'une certaine manière, qui prend des formes ravageuses, et comment on se défend, ça? On ne sait pas.
Alors Grégoire Delacour, pendant longtemps, prononcer les mots d'abus, d'attouchement, de violence sexuelle a été très difficile. Des mots, écrivez-vous, qui vous cisaillaient la bouche.
C'est dur, c'est récent, ces mots-là. Ils sont nés avec ce livre. Ils ont commencé à bouger, à vibrer quand j'ai écrit il y a 3 ans un roman qui s'appelait Mon Père, qui s'appelle toujours Mon Père. Pendant l'écriture duquel, qui raconte un papa qui va voir un prêtre dans une église un vendredi, et il ferme l'église, il s'enferme pour un huis clos de 3 jours avec ce prêtre, et il le soupçonne d'avoir abusé de son fils, d'avoir violé son fils, et il saccage tout dans l'église, et le prêtre arrive, et il dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il regarde le prêtre, il dit « Pourquoi lui ? Pourquoi mon enfant ? Pourquoi tout d'un coup, un enfant est une proie ? Pourquoi on est convoité, dévoré ?» Et donc, quand j'ai écrit ce roman, j'étais physiquement pas très bien. C'est la première fois que j'écrivais un livre où je me sentais pas bien, quoi. Alors que l'écriture a plutôt une jouissance chez moi. Et je suis tombé malade à l'issue de l'écriture de ce livre. Je suis allé à l'hôpital, j'avais mal au ventre, et j'ai mal au ventre depuis 55 ans. Et c'est le lieu, c'est mon tombeau, quoi. Et on trouvait jamais, on comprenait pas. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Et en fait, il y a un petit enfant presque mort, quoi. Mmh. Et j'ai continué à écrire. C'est-à-dire que le roman était fini, j'ai continué à écrire, et ça a donné, 3 ans plus tard, naissance à l'enfant réparé. Et pendant cette écriture, tout s'est assemblé. Tout ce que j'écrivais, tout ce que je racontais dans chacun de mes livres était là, mais je le voyais pas. Les enfants cognés, les enfants bousculés, les enfants assassinés, les mamans qui sont dans le silence, le père qui est une ombre, toujours sombre, qui passe dans les livres, tout était là. Et il a fallu ce déclencheur de ce roman très dur qui est Mon Père, pour comprendre que l'enfant dont je parlais dans tous mes livres, c'était moi.
Bonjour Charlotte Pudlowski.
Bonjour.
Co-fondatrice de Louis Média, vous publiez chez Grasset, ou peut-être Une nuit, sous-titré Inceste, la guerre du silence. C'est le fruit de votre podcast. Le silence, c'est le fil conducteur des témoignages de victimes d'inceste que vous avez recueillis. Alors, à l'origine de ce podcast et de ce livre, l'inceste subi par votre mère, elle ne vous dit rien avant vos 26 ans, un silence qui raconte le puissant tabou de l'inceste.
Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai appris cette histoire, de manière assez hasardeuse, un soir à table au restaurant, ma mère me dit « Oh, tu sais, moi, mon père », et je ne vois absolument pas de quoi elle parle. Et en fait, elle me dit « Bah, comme il a essayé d'abuser de moi ». Et ça m'a pas surprise tant que ça, qu'elle ait été victime d'inceste, parce qu'on soupçonne un peu toujours les secrets de famille et que ça faisait sens par rapport à ce que j'avais pu comprendre d'une monstruosité que j'imaginais quelque part couler dans ma famille, mais je savais pas où. En revanche, ce qui faisait effectivement pas sens du tout, c'était ce silence. Ma mère et moi, on a toujours été extrêmement proches, on s'est toujours beaucoup parlé, pas que de météo, de vrais sujets,
d'angoisse. Vous écrivez « Le bruit et les éclats de voix étaient la bande-son de votre vie ». Donc ça parlait beaucoup dans votre famille.
Ça parlait beaucoup, ça débattait beaucoup, enfin ça se disait des vraies choses, quoi. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens pour ce livre qui viennent de familles où on ne parle que de météo, où on ne parle que de choses très extérieures. C'est des mots pour surtout ne pas parler. Nous on n'était pas dans une famille comme ça, on se disait des vraies choses. Et du coup je me suis dit, mais si même ma mère, même dans ma famille nucléaire à moi où on est extrêmement proches, on ne peut pas se dire ça. Il y a quelque chose à comprendre sur ce silence. Et du coup, le livre, il part de ça. C'était une quête vraiment très personnelle pour faire sens de ce silence.
Et très tôt, vous ressentez un vide. Vous ressentez un malaise quand vous vous rendez dans le pavillon de banlieue de vos grands-parents maternels.
En fait, c'était un vide qui venait fréquemment et qui venait notamment à ce moment-là. Mais je pense que ce que provoque aussi le silence, c'est... Pourquoi ça neutralise les victimes? C'est parce que si on ne parle pas des choses, on ne sait pas exactement où est le mal. Du coup, il est potentiellement partout et il est potentiellement en nous. Et du coup, dans le doute, on peut plus bouger, quoi.
Grégoire Delacour.
Ah mais je ressens tout à fait ça. Le silence, c'est curieusement aussi extrêmement confortable. C'est une zone comme ça où on se réfugie, et c'est quelque chose de difficile à briser. Moi, j'ai eu un silence de l'ordre de l'inconscient. Je sentais une douleur extrême. Et quand je parlais tout à l'heure de langue à travers l'écriture, moi, j'ai essayé de créer une langue pour dire des choses, puisque la langue que je connaissais, les mots que j'avais en moi, ils sortaient pas. Donc j'ai dérouté, ça aurait pu être la peinture, ça aurait pu être quelque chose. J'ai rencontré récemment, à la faveur de ce livre, un peintre, il a 70 ans, et il m'a dit, j'ai lu votre livre, vous racontez mon histoire. Moi aussi, je savais pas parler, il disait, j'ai peint pendant 40 ans pour cacher, pour recouvrir, et depuis très peu de temps, je peins pour montrer. Et c'est sa langue à lui, ça a été la peinture, et il sort de son silence. Et je crois que c'est la chose la plus dure, ce silence, parce que il est une anesthésie quand même, il nous réchauffe d'une certaine manière, et puis c'est tout, on est là. Et le briser, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse tous, et surtout qu'on recueille la parole de ceux qui osent enfin parler.
Bonjour Bruno Clavier.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychanalyste et psychologue clinicien. Vous êtes l'un des principaux représentants de la psychanalyse transgénérationnelle. Alors vous avez été victime d'un inceste, de celui de votre commis par votre frère aîné. Il est rare qu'un psy révèle cette intimité dans ses écrits.
Oui, c'est ce que je dis dans le livre. Je dirais même que c'est assez étrange. Les psys parlent pas d'eux. En fait, même tous les grands psychanalystes, à part Dolto et Freud. Freud parle de lui aussi. Et oui, c'est ça. Et là, je voudrais revenir sur la question du silence. Il y a un autre silence encore plus terrible, c'est celui de l'amnésie. Mmh. Et moi, j'étais amnésique. Et justement, par rapport aux chiffres, là, quand on dit une personne sur 10, c'est une personne sur 10 qui le dit. Donc, il y a une deuxième catégorie, c'est ceux qui sont dans le déni. Donc, moi, je rencontre ça tout le temps. C'est-à-dire, je demande à quand je reçois des familles, je vois tout de suite, par un certain nombre de détails, que, par exemple, la mère a été abusée. Et je dis, est-ce que vous avez été abusée? Et j'ai toujours la même phrase. Non, mais. Donc ça, c'est incroyable, je l'entends tout le temps. Non, mais. Et là, on me raconte des horreurs. Tout le temps. C'est-à-dire que il y a déjà cette deuxième catégorie. Et la troisième, qui est celle de l'amnésie, et moi, de toutes les patientes que j'ai, elles sont pratiquement toutes amnésiques. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est pas 1 sur 10. J'irai jusqu'à 3 sur 10. 3, 4 sur 10. Donc c'est important parce que c'est un problème d'une ampleur qu'on soupçonne pas. C'est la même chose que pour les abus sexuels dans l'église. Il y a quelque chose qu'on ne soupçonne pas encore.
Quels sont les symptômes de cette amnésie, justement ?
Alors les symptômes, le problème de l'amnésie, c'est un trou noir. Et plus elle est précoce, plus c'est un trou noir. C'est-à-dire qu'il y a des amnésies qu'on ne peut pas lever. C'est impossible. Si on lève l'amnésie, la personne meurt. C'est un patient qui m'a dit ça. Il m'a dit, si je me souviens, je meurs. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Donc ça veut dire que face à cette espèce de trou noir de l'amnésie, il faut observer. Et observer, c'est un peu comme en physique. En physique, on voit pas les électrons, on en voit les effets. Eh bien, l'amnésie, on en voit les effets. Et il faut, moi j'enjoins justement la psychologie, la psychanalyse, à s'intéresser de plus en plus au psychotrauma pour comprendre ces signes-là. Ces signes qui ne sont pas, qui sont physiques par certaines maladies et qui sont qu'on voit, on a 3-4 signes qui sont tellement tellement évidents.
Par exemple,
l'hypervigilance, une très grande nervosité. Bon, moi après il y a quelque chose que je vois dans le regard. Il y a des maladies comme la fibromyalgie, des choses. Je suis pas le seul à parler de ça. Il y a des médecins qui commencent à s'intéresser à ça. Il y a tout un tas de, comme pour une maladie normale, on voit 3-4 marqueurs, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, on peut soupçonner une amnésie. Et très vite, j'ai eu ça hier encore avec une famille. C'était évident vu les symptômes de l'enfant, puisque moi je reçois beaucoup d'enfants qui portent les symptômes de leurs parents. Et bien à ce moment-là, je me trompe rarement. C'est-à-dire, je dis, mais qu'est-ce qui. Il vous est arrivé quelque chose? Et là, tout d'un coup, ça commence. Il me semble que, je ne sais pas, mais oui, c'est vrai que j'ai toujours pensé que. Et puis ça. Voilà.
Charles Pudlowski, dans les témoignages que vous avez recueillis, ça revient ce type de choses.
L'amnésie. Oui, c'est quelque chose qui est et c'est effectivement la première couche de silence, c'est la possibilité de se le dire à soi-même, d'en prendre conscience, et c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré au débat politique et au débat public, la prise en compte de cette amnésie qui peut durer parfois 10, 20, 30 ans, et notamment quand les victimes restent au contact des agresseurs, parce que c'est une manière de se protéger aussi, c'est le cerveau qui nous protège de la violence.
C'est même au-delà de 30 ans, hein, 40 ans. Moi personnellement, c'est 40 ans. Hein, c'est 40 ans après. Et c'est vraiment quelque chose de, c'est un problème de santé publique. Il faut qu'on comprenne ça. Alors après, il va y avoir beaucoup de questions qui se posent. Faire surgir de faux souvenirs. Alors il y a toute une bataille là-dessus. Donc il va falloir des garanties qu'on puisse savoir et tout ça. Même moi, je raconte, j'ai en fait un autre abus dans une pension que j'ai raconté dans le livre, hein, qui est gravissime, pendant un an. Et puis un autre abus dont je ne sais pas qui c'est. Et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre, et tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. C'est ça qui est compliqué avec l'amnésie.
Alors le silence et le déni, ce sont deux piliers fondamentaux de l'inceste. Déni de la société, Charlotte Pudlowski, même si la parole semble s'être libérée ces dernières années, ou est-ce une illusion d'optique ?
Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que à la fois il y a eu une véritable libération et moi j'ai constaté, puisque vous disiez le livre qui paraît aujourd'hui, c'est une adaptation du podcast qui est sorti il y a pile un an, donc quelques mois avant La Familia Grande de Camille Kouchner. Et au moment où le podcast est sorti, il y a eu à la fois un engouement assez fort, je pense produit par le fait que les gens avaient envie de parler de ces sujets-là et que le nombre de victimes étant énorme et sous-entendu, elles étaient content de pouvoir s'emparer du sujet, d'avoir des ressources, etc. Mais j'ai aussi été confrontée, notamment de la part des médias très mainstream, notamment à la télévision, à des journalistes qui me disaient « Oui, alors là, c'est la rentrée des classes, et puis quand même, on sort du Covid, c'est pas très marrant, non, je crois, ça a l'air super, hein, mais non, vraiment, on va pas en parler. » Ensuite, le livre de Camille est sorti, de Camille Kouchner est sorti, et il y a pas mal de ces médias-là, très grand public, qui sont revenus vers moi en me disant « Ah, on a vraiment hyper envie de parler d'inceste, c'est vraiment hyper important, il faut absolument que vous soyez dispo pour des dizaines de tables rondes. » Et là, je me suis dit « Bah, il y a vraiment quelque chose qui s'est enclenché. » Et même sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui m'avaient envoyé des messages privés en me disant, des influenceurs féministes, etc., qui me disaient « C'est super ce que t'as fait, mais je vais pas en parler, je suis pas très à l'aise, etc. » Et à partir de janvier, quand La Familia Grande est sortie, on a vu vraiment un renversement. Après, ce que j'essaye d'analyser dans le livre, c'est cette idée de recommencement permanent. Moi, ma crainte, c'est que le silence revient toujours. Et c'est ce que Suzanne Faloudi expliquait, qui est une féministe américaine, expliquait déjà dans les années 90 avec son livre Backlash, c'est que le féminisme, puisque pour moi la question de l'inceste, c'est lié au patriarcat et c'est un enjeu de féminisme, le backlash revient toujours et du coup le silence revient toujours et il peut prendre différentes formes, c'est-à-dire que là par exemple le gouvernement a légiféré très vite, je trouve étonnamment vite quand même, pour se dire qu'ils ont vraiment pris en compte ce qui s'est passé cette année, mais ça peut aussi être une manière de dire oui les victimes ont parlé, il faut absolument les entendre et d'en faire un espèce de bruit au lieu de se concentrer sur la parole et de résumer ça à une espèce de chaos de « oui, bah, de toute façon, il y a plein de victimes, bah oui, voilà ». Et de dépolitiser, en fait, le sujet. Moi, je pense que le danger, il est là aussi.
Gonel Boulet.
Oui, et puis la question, c'est comment on recueille la parole. Parce que nous, on fait tout un travail aussi de prévention, je suis de Bayard Presse dans notre casquette, auprès des enfants, mais c'est bien de leur dire il faut arriver à en parler, nous on est dans cette démarche de dire il faut sortir du silence si t'arrive quelque chose, etc. Mais on sait que la double punition, c'est quand on a réussi à parler et qu'on n'est pas entendu, ou que notre parole, elle va dans les limbes de on ne sait quelle justice qui n'a pas le temps de le traiter. Et là, on a vraiment, là, il y a une responsabilité vraiment de la société à dire on peut encourager à parler, mais qu'est-ce qu'on fait de cette parole ?
J'aimerais qu'on évoque le déni de votre mère, Grégoire Delacour. Vous écrivez « Le déni est une façon de survivre, douloureuse, un mensonge à soi-même. Ma mère ne voulait pas risquer d'entrouvrir une porte. L'enfouissement de mon agression était une chance pour elle. »
C'est une chance pour elle, on est en 65 en ce qui me concerne, donc on est loin, loin de la parole, des réseaux sociaux, de ce fantastique nouveaux endroits où on peut parler. Et on est dans le cadre d'une famille, enfance, enfant pendant la guerre, etc., qui se marie en 59, dont seul l'homme travaille. Donc l'homme tient la destinée économique du foyer. Et c'est vrai que quand ma mère soupçonne, devine à des signes que vous évoquiez, mais sans pouvoir les formaliser, mes colères, l'envie que si on me touche, je me mets à hurler, etc., elle sent que quelque chose se passe et qu'elle doit m'éloigner. Et très vite, donc elle a 27 ans à ce moment-là. Moi, elle avait 22 ans, donc j'ai 5 ans, elle sent que quelque chose ne va pas, qui me sera confirmé plus tard par d'autres membres de la famille quand j'ai écrit le livre. Et donc, elle me chasse. Et moi, petit garçon aîné, je vis ça avec un chagrin immense, puisque tout à coup, je suis aimé sans amour par une mère qui devrait aimer indiscutablement, inconditionnellement. Et chaque week-end, je pars, et chaque week-end, on m'envoie dans les camps, dans les colonies, dans les machins, à 10 ans en pension, etc. Et je comprends pas. Et j'ai un chagrin immense, parce que je me dis, ma mère m'aime pas. Et il me faudra ce livre pour comprendre qu'elle m'a éloigné de la longueur des bras d'un homme, qu'elle m'a éloigné du mal, et qu'elle a fait cette chose incroyable, cet amour immense qui est presque surhumain, qui est d'aimer au point de renoncer à soi, à l'amour que l'autre peut nous donner, de se priver de l'autre pour qu'il puisse vivre. Et ça, c'est quelque chose de bouleversant, j'ai pas pu lui dire, parce que malheureusement elle est morte quand j'ai écrit mon premier livre, qui déjà cherchait à retricoter quelque chose avec elle. Et je la remercie aujourd'hui parce que j'ai peut-être eu moins de maman, mais je suis vivant.
Je trouve que c'est hyper intéressant cette question des mères, parce qu'on l'a beaucoup vu. Moi, c'était une de mes questions quand j'ai commencé mon enquête, c'est comment c'est possible que la mère de ma mère ne l'ait pas aidée, ne l'ait pas sauvée, ne l'ait pas protégée, voire qu'elle n'ait pas vue ou qu'elle ait choisi de pas voir. Et je l'imaginais vraiment complice. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'on faisait aussi peser sur les mères un espèce d'amour qui devrait être complètement omniscient, alors que dans ces familles-là, les mères ont souvent elles-mêmes grandi dans des familles conditionnées par le silence. Et juste sur la famille Lagrandais, moi j'ai trouvé ça hallucinant à quel point on a parlé de la mère de Camille Kouchner, donc de la mère de son jumeau qui a été abusée, comme si finalement c'était elle la grande responsable. Et qu'en plus elle était féministe, donc vraiment elle aurait tout dû savoir.
Et puis il ne faut pas oublier, et vous le dites dans votre livre, Charlotte Pudlowski, le silence, c'est l'arme des agresseurs. Ce silence qui empêche de se formuler l'inouï, la logique d'oppression, de se percevoir clairement en tant que victime et d'être reconnu par d'autres, de se reconnaître en d'autres.
Oui, parce que je pense que ce qui fait qu'on arrive à sortir de soi-même, à se battre, à trouver les armes, à demander de l'aide, sur le plan même juste médical, c'est le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et moi, c'est quelque chose qui m'a réjoui quand j'ai sorti le podcast et le livre, c'est que j'avais très peur de faire du mal à ma mère et de lui faire remuer des choses douloureuses qui appartiennent quand même à son passé et qui, dans une certaine mesure, étaient déjà digérées. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça lui faisait à nouveau un bien fou, et notamment de voir son récit, son histoire personnelle enchâssée dans quelque chose de plus grand, et de réussir à faire sens de tout ça. Et ça peut se faire que par la parole.
Bruno Clavier.
Oui, je voulais ajouter, moi j'ai mis 10 ans à comprendre ça. Au début, c'était qu'est-ce que c'est que ces mères complices, avec une idée, ça serait démon. C'est pas ça, c'est qu'elles ont, dans une majorité, été elles-mêmes abusées. C'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas d'autre chose. Moi, je parle de formatage, et Muriel Salmona, la psychiatre parle de ça. C'est un formatage. Elles ont été abusées dans leur enfance, elles donnent à leur fils ce qu'elles ont eu. C'est-à-dire, je dis une phrase terrible, mais elles donnent la soupe qu'elles ont mangée. C'est pas des monstres. C'est qu'elles ne pensent pas autrement, parce que c'est comme ça qu'on pense de cette famille. Et on voit ça dans le film Les Chatouilles, quand à un moment donné, la mère dit « Oh, mais tu m'embêtes, toi, avec ton truc, si tu savais ce que j'ai eu. »
Vous confirmez, Charlotte Pudlowski?
Oui, moi, c'est effectivement exactement ce que j'ai trouvé dans mon travail. C'est ce qu'explique l'anthropologue Dorothée Ducy dans le berceau des dominations. Et puis, il y a aussi cette question de pourquoi est-ce qu'on regarde du côté des mères? Enfin, je veux dire, je dis pas, et c'est, moi vraiment, c'est ce que j'ai fait. Enfin, spontanément. Et d'ailleurs, quand ma mère m'a raconté son histoire, je pense qu'elle était plus en colère contre sa mère que contre son père. Et il y a beaucoup de victimes que j'ai rencontrées qui en voulaient plus à leur mère, parce que l'abandon d'une mère dans le monde dans lequel on grandit, dans la société, dans ce qu'on nous vend en termes de représentation, de croyances collectives, être mal aimé ou pas assez aimé ou pas protégé par sa mère, il n'y a pas de plus grand affront fait à notre construction.
Allez, nous continuons à écouter les témoignages de nos invités juste après les Pixies. Where is my mind? Stop. We'll be right back. Where is my mind?
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
10h34, comment faire face au silence autour de l'inceste? C'est notre thème ce matin avec l'écrivain Grégoire Delacour, la présidente et cofondatrice de Louis Média, Charlotte Pudlowski, avec le psychanalyste et psychologue clinicien Bruno Clavier. Je vous propose d'écouter Eva Thomas, l'auteur du Viol du silence, qui fut la première personne à témoigner à visage découvert à la télévision française le 2 septembre 1986. Elle était alors âgée de 45 ans. Son père l'avait violée 30 ans plus tôt.
Ça s'est passé une nuit. Bon, après, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais un trou noir dans la tête, un blanc dans ma tête. Je ne savais plus ce qui s'était passé. J'étais horriblement angoissée, mais je savais seulement... Enfin, j'avais le souvenir de mon père sur moi et c'est tout. Mais tout ce qui s'était passé, j'en avais aucun souvenir. Et j'ai mis 30 ans à retrouver la mémoire de cette nuit-là. Il y a 6 ans, j'ai écrit une lettre à mes parents pour dire que je ne pouvais pas aller les voir parce que chaque fois que j'y allais, j'étais malade. Et je n'en pouvais plus de cette espèce d'hypocrisie de jouer à la petite fille gentille qui fait comme si rien ne s'était passé. Et j'ai donc demandé à mon père de me dire ce qu'il avait fait. Et il m'a répondu. Et bon, ça a été très dur pour moi parce que finalement, jusqu'à la lettre...
Il a répondu par écrit.
Oui, et jusqu'à la lettre de mon père... je me défendais toujours en me disant que c'était peut-être pas vrai. Enfin, il y avait toujours cette espèce d'espoir que c'était pas vrai. Ouais. Et si vous voulez, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir rêvé, effectivement. Et on se défend comme ça.
Ouais. Extrait des dossiers de l'écran en 1986. Charlotte Pudlowski, vous avez rencontré Eva Thomas pour votre podcast et votre livre, ou peut-être une nuit. Eva Thomas qui a créé SOS Inceste. Que vous dit-elle aujourd'hui? Je crois qu'elle est âgée de 79 ans.
Ouais. Elle a dit des choses un peu différentes aux différents moments où on s'est parlé. La première fois que j'ai rencontré Eva, c'était... il y a un peu plus de 2 ans, donc avant l'année qu'on vient de vivre en termes de débat public sur l'inceste, et elle était extrêmement pessimiste. Elle était très découragée. Elle a vécu, elle, ses recommencements permanents au cours de sa vie. Elle a milité, elle a fait des pauses pour s'occuper d'autres choses, pour vivre, pour être dans la joie plus que dans le combat. Et puis à chaque fois, elle revenait au militantisme d'une manière ou d'une autre, et à chaque fois, elle était déçue, et à chaque fois, elle se disait « Mais pourquoi les politiques ne s'emparent pas de ces sujets-là » C'était incompréhensible pour elle. Et on s'est reparlé il y a quelques mois, après la sortie de La Familia Grande, et elle était un peu prise entre deux états, un grand enthousiasme, c'est quelqu'un qui a un élan de vie assez exceptionnel, de toute façon pour faire ce qu'elle a fait dans sa vie, pour témoigner en 86 à visage découvert, être la première femme à faire ça, faut quand même avoir un courage un peu hors norme je pense, donc elle a ça, et ça va avec un élan de vie qui fait qu'elle... Elle est construite avec un certain optimisme. Mais en même temps, elle voit bien les allers-retours permanents. Et quand je lui ai parlé, elle venait d'être intégrée à la commission montée par Adrien Taquet autour de la protection de l'enfance. Et elle m'a dit, vous vous rendez compte, Charlotte, la première chose qu'ils nous ont demandé, c'est de pas en parler tout de suite, parce qu'il faut pas dire que c'est constitué, etc. Le premier truc qu'ils nous demandent, c'est de faire silence. Et voilà, je pense qu'elle est prise dans ses contradictions. Elle a envie de croire que les choses changent. Et par ailleurs, encore une fois, des choses ont changé en plus de 30 ans. Mais elle voit aussi les limites, et notamment les limites politiques. Et tant que celles-là ne seront pas franchies, on n'avancera pas. Si on ne va pas au noyau du problème, on ne le changera pas.
Bruno Clavier, psychanalyste et psychologue clinicien.
Oui, par rapport à ça, je pense que justement on parlait de prévention tout à l'heure. Moi, je reçois beaucoup d'enfants, hein, et je pense que la prévention c'est à 4 ans. Et ça c'est très important. Nos sociétés ne comprendra tant à 7-8 ans, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que 4 ans, c'est en plus la période. Alors là-dessus, la psychanalyse, j'ai des critiques, mais là, elle a des bonnes choses. C'est de dire qu'il y a une période sexuelle. Et comme à ce moment-là, à 4 ans, les enfants sont très sexués, ils sont dans la découverte sexuelle, c'est là qu'il faut les informer. C'est là. À 7-8 ans, c'est trop tard. Donc, tant qu'on n'aura pas fait ça dans les familles, ça va être compliqué.
Bonjour Jenny, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Cherveux, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors, quel est votre témoignage, Jenny?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai été victime d'inceste à l'âge de 8 ou 9 ans, donc il y a 27 ans, par le beau-père de ma grand-mère, que je ne connaissais pas plus que ça. Et par contre, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que j'ai été formée à ça, en fait, très très jeune. J'étais dans de la prévention, en fait.
À parler c'est ça ?
Oui, pas que. Mm-hmm. Mon père m'a expliqué très jeune comment réagir face à ce genre d'événements dans une vie, en fait. En fait, je savais très jeune que, par exemple, le Père Noël n'existait pas, ce que c'était que l'inceste, mm-hmm. un exhibitionniste, un pédophile, le sexe d'un homme, d'une femme, comment on faisait les enfants, très très jeune. Mm-hmm. Donc, du coup, comment réagir à des situations qui nous arrivent comme ça, quoi.
Et ça a été important par la suite.
Ben oui, évidemment, puisque pour le coup, ça m'est arrivé et j'ai su tout de suite comment analyser cette situation, voir que c'était pas normal ce qui se passait. Que par contre, ça j'étais très je suis émue. J'étais
c'est normal.
Très perturbée par rapport à cette situation, puisque j'avais conscience que c'était grave. Ce qui m'arrivait et qu'il fallait que j'agisse en fonction de ce que mon papa m'avait appris. Donc c'est-à-dire crier pour alerter au moment de l'agression en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc là, c'était pas possible, il n'y avait personne autour. J'étais enfermée aussi dans une pièce, donc il fallait que je repère s'il y avait une issue de secours quoi pour sortir. Donc la seule issue était une fenêtre en haut d'étagère, c'était impossible pour moi. Et la personne qui m'avait fait des attouchements s'était assise à l'entrée de la pièce. Et pour sortir, il fallait que je touche le sexe. Et donc j'ai réussi, mon père m'avait appris à courir vite aussi, et à comment me défendre aussi, mettre un coup de poing par exemple, ou taper dans les parties génitales, comment m'en sortir. Enfin, j'étais un peu une guerrière toute petite.
Bruno Clavier,
oui, juste savoir, demander à cette dame si c'était la grand-mère maternelle.
Paternelle,
en plus. Oui. D'accord, ça c'est étrange.
Et j'étais en plus en vacances chez cette personne-là, parce que je vivais pas chez mon père, donc on me laissait chez ma grand-mère, et qui m'avait emmené donc voir sa mère à elle. Et la première réaction d'ailleurs, la première personne à qui j'en ai parlé, c'était ma grand-mère, le jour même, pas très loin de l'endroit d'ailleurs. Et la réaction qu'elle a eue, elle, c'est écoute, tu dis rien, ça restera entre nous. Ne dis rien à personne, ça restera entre nous. Par contre, quand je suis rentrée chez mon père, automatiquement, j'en ai parlé tout de suite à ma belle-mère. Par contre, c'était très difficile pour moi de le faire parce que je savais que c'était grave et que j'appréhendais la réaction de mon père. Et suite à ça, j'en ai aussi parlé à mon père. Et par la suite, mon beau-père en premier aussi, et ma maman. Et là, par contre, c'était plus particulier, puisque normalement, c'est resté dans les non-dits.
Charlotte Pudlowski.
Oui, non, juste sur cette réaction de silenciation, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la très grande majorité des cas. Ça peut être explicite, comme là, en disant vraiment ne dis rien, et ça peut être aussi fait de manière implicite, par du chantage affectif, ou par un climat instauré déjà dans la maison préalablement.
Merci beaucoup, Jenny, d'avoir témoigné. Alors, quasiment toutes les victimes d'inceste sont abîmées par ce qui leur est arrivé. Il s'agit, vous le disiez tout à l'heure, Bruno Clavier, d'un fléau de santé publique avec des conséquences très graves sur le psychisme et sur le corps. Souffrance psychique importante, des addictions, des tentatives de suicide, des scarifications. Grégoire Delacour, vous avez eu une relation compliquée à votre corps après l'abus sexuel commis par votre père. Je rappelle que vous publiez le très beau récit L'enfant réparé. Quel rapport avez-vous eu avec votre corps pendant 20, 30, 40 ans ?
C'est un rapport compliqué parce qu'il est à la fois ce que vous habitez, ce qui vous représente au monde, ce qui vous relie au monde, et ce qui vous a trahi. Il n'y a pas de preuve. Mon corps est mon pire ennemi, il n'y a pas de preuve. Je n'ai pas eu un coup de couteau, je n'ai pas eu une balle, je n'ai pas eu un bras arraché. Je peux dire à quelqu'un, me dénuder et dire voilà, on m'a fait du mal, mais où ? Montrez-moi, apportez une preuve. Donc déjà, cette preuve, cette capacité d'être connu par l'autre sans preuve, c'est quelque chose de absolument insurmontable. Et ce corps, il faut vivre avec. Ce corps, je l'ai aimé, je l'ai détesté, il m'a fait souffrir énormément jusqu'à récemment. C'était mystérieux, la souffrance. Les médecins ne trouvaient pas. C'est dur de dire j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, et personne ne sait. Les scanners ne trouvent rien, les échographies ne trouvent rien, on ne sait pas. Et à l'époque, on n'imaginait pas des choses pareilles. Petite, milieu bourgeois, valenciennes, on n'imaginait pas ça. Et donc, on m'a gavé de médicaments. Très tôt, la chimie était là au secours de l'incompétence des médecins. Valium, Mogadon pendant des années, et j'ai vécu une enfance comme ça, une adolescence brouillardeuse, très compliquée. Et au-delà du rapport à mon corps que je comprenais pas, puisqu'il était mon traître, c'est quoi le corps que je donne à l'autre? Qu'est-ce que je vais offrir à quelqu'un qui m'aime? Et est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il me fait du mal s'il m'aime? Et qu'est-ce que je donne puisqu'on est souillé? Un cesse, ça veut dire souillé. On est sale. Donc on a un corps qui vous, à la fois, vous essayez de conserver, parce qu'on habite dedans, c'est important, mais qui vous fait honte, qui vous trahit en permanence. Et ça, c'est difficile, on a du mal à le donner, et si on le donne, on peut parfois le laisser partir, être dans une sorte de violence. On recherche à la fois la douceur qu'on a perdue, et puis la violence qu'on lui a faite, parce qu'il fonctionne à ça. Et les addictions qu'on a, et les chagrins qu'on a, ils sont cette manière qu'on a eu de rester en vie. Et puis après, la question qu'on a, et qui est la pire en ce qui me concerne, et je pose la question dans le livre et j'ai pas la réponse, est-ce que j'ai eu du plaisir? Parce que si j'en ai eu, alors, c'est plus possible de rester dans ce corps.
Mais ce que je voudrais dire, c'est que les violences sexuelles, surtout par rapport aux enfants, c'est une déflagration, c'est en fait un incendie. Et c'est pour ça que c'est comme tous les circuits nerveux sont brûlés et on s'en aperçoit pas. Et puis petit à petit dans la vie, ça va s'aggraver. C'est un véritable incendie. C'est-à-dire c'est un court-circuit. Vous amenez quelque chose qui est ingérable par le corps et toute la vie après, il va y avoir cette espèce de feu intérieur. Avec des traces multiples que personne ne voit, puisque les médecins comprennent pas, ils savent pas, mais qu'est-ce qu'il a? Et quand il a très bien dit, j'ai mal au ventre, mais c'est toutes ces personnes sont comme ça. Elles ont mal partout, et on dit, mais vous avez mal partout, on comprend pas. Ils sont en train de brûler toute leur vie.
Je vous cite Grégoire Delacour, écrire, notamment ce livre, c'est redresser ce corps de traviole.
Oui, j'ai vécu d'un corps de traviole, une ronce, un barbelé tordu, et c'est un peu comme on a, pour caricaturer, un caillou dans la chaussure, et on finit par boiter, on continue à marcher, c'est ça qui est terrible, ça ne nous empêche pas de marcher, on boite et on devient quelque chose de disgracieux, de franchement laid, et un jour on trouve ce caillou, alors on vous l'enlève, et on croit que ça y est, c'est réglé, mais le boitement reste. Alors on va passer sa vie à essayer de rendre gracieux notre boitement, pour rester humain.
Il est temps de retrouver la chronique « Ma vie de parent » de Gonelle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut! Merde!
Alors Gonelle Boulay, ce matin dans « Ma vie de parent », vous avez choisi de nous parler de votre expérience de parent sur la question des violences sexuelles.
Oui, je sais pas vous, mais moi j'ai eu pendant très longtemps des préjugés sur ce que pouvait être l'inceste et plus généralement les violences sexuelles. Dans ma famille, en colonie ou dans les multiples activités que j'ai pu faire tout au long de mon enfance, j'ai eu la chance d'être épargnée. Je n'ai jamais eu affaire à un geste déplacé ou à un comportement inapproprié ou violent à mon égard. Alors, il y a quelques années, au fond de moi, je pensais que ça n'arrivait que dans certaines familles, ne sachant pas très bien ce que je mettais derrière ce « certaines », mais en gros pas la mienne. J'étais aussi vaguement persuadée que la perversion se lisait sur un visage et que l'on sentait quand quelqu'un n'était pas sain avec un enfant, un adolescent. Bref, tout ceci était tellement inimaginable que je n'y pensais pas.
Et puis votre regard a changé, expliquez-nous pourquoi.
Oui, il y a 3 ans, dans le cadre de mon travail de journalisme jeunesse, j'ai été amenée à travailler sur ce sujet pour écrire un livret de prévention. Et là, j'ai découvert les chiffres. Et au-delà des chiffres, j'ai découvert toutes ces histoires individuelles, ces vies détruites ou si difficiles à reconstruire, ces souffrances traînées des années dans le silence ou l'incompréhension des proches. J'ai aussi été bouleversée par la culpabilité de ces parents qui n'avaient pas vu, et qui étaient pourtant des parents présents, aimants. Et au fur et à mesure, j'ai compris que non. Malheureusement, la perversion ne se voyait pas sur le visage. Que les stratégies de ces adultes déviants étaient souvent infiniment plus subtiles que le simple usage de la force ou de la menace. J'ai appris que la question « Mais pourquoi tu n'as rien dit ?» était une double peine pour les victimes, pour qui la parole et la confiance étaient justement ce qu'on leur avait retiré. J'ai appris qu'aucun milieu social, aucune origine, aucune génération n'était épargnée, et qu'alors que nous, parents, étions parfois fébriles d'envoyer nos enfants en collectivité et leur apprenions à se méfier des inconnus dans la rue, nous n'avions pas conscience que le danger venait majoritairement des cercles proches.
Alors justement, que peuvent faire les parents pour protéger leurs enfants?
La première chose, et la plus difficile peut-être, c'est de ne pas paniquer et d'affronter le sujet calmement. Car même si on préférait faire l'autruche, nous devons en parler avec nos enfants. Leur en parler, c'est vraiment les protéger. Comme il ne nous viendrait pas à l'idée d'envoyer notre enfant dans la rue sans quelques règles élémentaires de sécurité routière, on peut donner à nos enfants quelques repères sur ce sujet, et ce, quel que soit leur âge. Déjà, en leur parlant de leur corps, de qui a le droit, ou pas, de voir, toucher ou soigner leurs parties intimes. On peut aussi leur parler des gestes qui leur appartiennent et qui sont libres d'accepter ou de refuser. S'il est poli et peut-être d'avoir une exigence éducative, des bisous, eux, ne sont pas obligatoires. Et il y a des gestes qu'aucun adulte ou grand n'a le droit de faire avec un enfant ou d'exiger de lui. On peut aussi aborder la question fondamentale du secret, qui est au cœur des violences sexuelles et de l'inceste. Il y a des bons et il y a des mauvais secrets. Et si un grand ou un adulte, même gentil, même que tu aimes, te demande de garder un secret sur quelque chose qui s'est passé entre vous, c'est pas bon, c'est mauvais signe et il faut en parler. On peut aussi poser régulièrement des questions, mine de rien, sur ce que l'enfant aime ou n'aime pas partager avec telle ou telle personne, sur la façon dont un tel ou un tel fait les câlins. Il s'agit pas de méfiance, mais de vigilance. Et de faire entrer ces questions dans la sphère de nos discussions pour autoriser la parole de l'enfant. À nous, parents également, d'oser demander aux institutions en charge de nos enfants, écoles, clubs de sport ou culturels, camps de vacances, ce qui est mis en place pour respecter leur intégrité et sécuriser leur relation avec les adultes. À nous, parents, enfin, de savoir accueillir une parole qui se libère, aussi imparfaite et laborieuse soit-elle, aussi inimaginable et douloureuse soit-elle. Car toutes les victimes le disent, si l'acte est traumatisant, ce qu'il est encore plus, c'est de ne pas être cru ou entendu quand on arrive enfin à parler. Alors il y a 3 ans, quelques mois après la publication de ce livret de prévention auquel j'avais participé dans le journal Astrapi, nous avons reçu la lettre d'une maman qui nous remerciait chaleureusement. À Noël, sa fille de 10 ans était venue la voir avec le petit livret à la main, lui disant qu'elle aussi, il lui était arrivé la même chose que dans la bande dessinée, avec un proche de la famille. Inimaginable, encore et toujours. Mais cette petite fille avait trouvé les mots pour en parler, une plainte était posée, un travail d'aide psychologique était entamé et la vie pouvait recommencer. Alors on le dira jamais assez, prévenir, écouter, faire face, accompagner. Pour lutter contre les violences sexuelles, notre job de parent n'est pas simple, mais le pire serait de faire comme si on ne savait pas que oui, ça peut arriver à tout le monde.
Et vous pouvez retrouver une bibliographie de livres, vidéos, films à regarder avec les enfants et les adolescents sur le site de France Inter à la chronique Ma vie de parent et le petit livre pour dire stop aux violences sexuelles faites aux enfants est publié par Bayard Jeunesse. Dans un instant, comment se reconstruire après un inceste?
Chaque jour, il faut s'y faire. Elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de l'intérieur. Chaque jour sur un bout de terre. Elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour depuis des millénaires. Elle revient toujours la colère. Chaque jour depuis des millénaires. Revient toujours la colère. Chaque jour sur un bras de mer. Elle revient toujours la colère. Chaque nuit comme en plein cœur. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour, même les plus ordinaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle prend de la hauteur.
Gaëtan Roussel, La colère.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h54, comment faire face au silence qui entoure l'inceste, c'est notre thème ce matin. Bruno Clavier, je rappelle que vous êtes psychanalyste et psychologue clinicien. Gaëtan Roussel vient d'interpréter la colère. Comment accompagner des émotions comme la peur, la colère, la haine, la tristesse, quand on a été abusé, violé
Alors c'est au niveau de la psychologie, ça vient plutôt des pays anglo-saxons. On a compris que parler, la thérapie par la parole, c'est important, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut parler et en même temps ne pas gérer toutes ses émotions. Donc on a maintenant des outils comme le MDR, comme d'autres choses, ou même l'hypnose qui a été écartée, puis qui revient maintenant. Oui, il faut aller traiter ça, plus d'autres choses. Il y a une association qui s'appelle SOS Violence Sexuelle de Violaine Guérin, où ils font faire de l'escrime aux personnes abusées, ou des choses comme ça, pour gérer l'agressivité, la colère, la tristesse, tout ça.
Quels sont les grands chemins de guérison? Vous dites que les personnes abusées, violées, doivent être traitées comme de grands brûlés ou de grands accidentés de la route. Alors cela nécessite du temps et différentes thérapies.
Plusieurs thérapies, une thérapie unique, ça suffit pas, comme des grands brûlés, et beaucoup de temps, et là on parlait double peine, bah oui, c'est une double, triple peine, parce qu'il faut repayer des thérapeutes, il faut voir plein de gens, il faut repasser du temps et replonger dedans, mais on n'a pas le choix.
Grégoire Delacour, il vous a fallu du temps pour vous définir comme victime, mais le jour où vous apprenez, vous comprenez que vous avez été victime, vous vous sentez vivant. Et c'est le début d'un chemin de réparation.
Oui, c'est important de connaître le lieu de sa souffrance. Quand j'ai compris que j'étais une victime, c'était presque rassurant. Voilà, il m'est arrivé quelque chose qui m'a défini, qui m'a trahi, qui a foutu ma vie en l'air. Mais c'était un point de départ important pour reconquérir qui j'allais être. Et je voudrais juste ajouter un mot sur la colère. Moi, j'en ai plus. D'une part, parce que mon père est mort et je peux pas être en colère. Et je crois que la colère, c'est une espérance impatiente. Et moi, j'ai pas ça, puisque je ne vais rien réparer avec lui. Il y aura plus rien. Il y aura juste cette infinie tristesse de ce qui nous est arrivé.
Vous allez sur son lit de mort. Ouais. Il agonise.
Oui, il a un cancer du ventre,
il
lui
parle
aussi.
De pardon, c'est ça. Pardon il parle.
C'est très curieux. Il me regarde. Il est très très perturbé par les médicaments. Très divague un peu. Et il me dit :« Je te demande pardon. » Et je dis, pardon, de quoi, papa? De quoi tu me demandes? On est en 2014. Il répond pas, il dit, j'avais honte, je rasais les murs pour aller travailler. Je te demande pardon. Mais de quoi? T'as fait du mal à quelqu'un, à maman? Et puis, il s'est retourné, et puis, ça a été fini. Et il est mort le lendemain. À la fois, il a voulu dire quelque chose, je pense, pour lui, mais il m'a laissé des épines dans la main.
Charlotte Pudlowski, sur les chemins de guérison, que vous disent vos témoins? Dans votre podcast et dans votre livre?
Moi, j'ai rencontré différentes personnes qui sont à différents moments de leur prise de parole et de leur sortie du silence. Mais je trouve que ce qui est important de dire, et c'est vrai que c'est une violence inouïe, l'inceste, et que toutes les personnes que j'ai rencontrées sont effectivement abîmées par ça, sans exception. Mais je trouve que c'est important de dire aussi que j'ai rencontré plein de femmes qui sont heureuses aujourd'hui, à commencer par ma mère, qui est heureuse depuis longtemps, et qui est vraiment un être de lumière. Et je pense que c'est important que les victimes qui nous écoutent peut-être et même leur entourage sachent qu'il y a des chemins de guérison, que les cicatrices restent, mais que c'est pas une condamnation au malheur. Il faut être pris en charge, il faut parler, il faut être soigné.
L'amour vous a réparé, Grégoire Delacour.
L'amour est au-delà de la psychanalyse, de tout ce que vous venez d'évoquer. L'amour est extrêmement important. C'est le lieu de tous les possibles. C'est le lieu de la réparation, pas de la guérison. On guérira pas. On va être réparé, on va être remis en marche, mais être guéri, ça voudrait dire être amputé de ce qui nous a fait du mal. On sera pas guéri. Et l'amour peut être une réparation formidable. J'ai eu la chance, ma mère, on l'a évoqué, une femme extraordinaire dans ma vie. Cet amour m'a sauvé la vie, me redonne la, comme vous disiez à propos de votre maman, Charlotte, la lumière.
Oui, je voulais juste dire que la question de l'amour, là, elle est problématique du côté de l'inceste, puisque dans l'inceste, la personne qui est en train de nous tuer, on l'adore et on l'aime. C'est ça.
Un numéro destiné aux victimes d'abus sexuels sur mineurs, le 119. 119, pour les plus petits qui nous écouteraient peut-être, 119. Merci à tous. Je recommande vraiment, Grégoire Delacour, votre récit. L'enfant réparé, c'est publié chez Grasset, c'est très beau. Merci Charlotte Pudlowski, ou peut-être une nuit, c'est également chez Grasset, c'est très instructif, c'est à lire également, on peut évidemment écouter votre podcast. Merci Bruno Clavier, vous avez écrit avec, rappelez-moi le nom de votre co-autrice,
Inès Gauthier, qui travaille avec les agresseurs.
C'est L'inceste ne fait pas de bruit, et c'est publié chez Payot. N'hésitez pas à partager, à réécouter, à podcaster cette émission sur l'appli et le site de France Inter. Demain s'intéresse à un sujet plus léger, éloge des baisers et des embrassades.